Bonjour Marie Madras.
Bonjour.
Vous êtes politologue spécialiste de la Russie, où vous avez longuement séjourné. Vous avez rencontré, passé du temps avec Vladimir Poutine à plusieurs reprises là-bas, avec Alexei Navalny également, avec tous les membres de l'opposition russe, avec l'élite universitaire évidemment. Votre livre défend une thèse originale, celle d'une guerre ingagnable en Ukraine par la Russie. C'est exactement le contraire du ressenti actuel. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette guerre est ingagnable par la Russie ?
Vladimir Poutine a lancé une guerre d'agression et de destruction de l'Ukraine et il a annoncé qu'il allait démilitariser, dénazifier et faire disparaître la nation ukrainienne. Au bout de 2-3 semaines de déroute militaire au printemps 2022, l'armée russe donc a reculé sur plusieurs fronts et il était alors absolument évident qu'il avait totalement perdu son pari. Donc aujourd'hui, après près de 800 jours d'occupation, de bombardement, de destruction, d'exaction contre des civils, il est évident que le dictateur n'a plus aucun but de guerre. Simplement que ça dure parce qu'il n'a jamais voulu évidemment la paix. Il n'a jamais voulu occuper toute l'Ukraine et la gouverner, puisque ça c'était absolument au-dessus de ses moyens. Donc, qu'est-ce qu'il peut gagner ? En fait, le problème, c'est on voit très bien comment les Ukrainiens doivent absolument, et ils ont ce seul but dans leur combat, c'est de repousser l'agresseur et de se retrouver en paix et en sécurité. Donc, eux, ils savent ce qu'ils doivent gagner. Ils doivent gagner la fin de l'agression.
C'est l'originalité de votre livre. Vous cherchez désespérément les buts de guerre de la Russie après 2 ans de conflit.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a plus.
Et il n'y en avait jamais eu. Ce n'est pas un but de guerre de dire je vais éradiquer une nation de 45 millions de personnes. Enfin, tout ça est complètement insensé. Donc non, il n'y a jamais eu de but de guerre. Et le plus important, c'est qu'il n'y a jamais eu dans cette guerre de but de paix. Et c'est pour cela que je l'appelle la guerre permanente, mais c'est aussi parce que Poutine est arrivé au pouvoir grâce à une guerre, la seconde guerre en Tchétchénie, qu'il a progressivement, année après année, utilisé de plus en plus la violence extrême à l'intérieur du pays, par une répression croissante, et en même temps engagé nombre de confrontations et de guerre avec d'autres pays, avec la Géorgie, avec l'Ukraine, puisque la guerre a commencé en 2014, et puis aussi la guerre contre les Syriens, en intervenant directement dans la destruction menée par Bachar el-Assad contre sa propre population, donc depuis 2015 et toujours aujourd'hui. L'armée russe est présente en Syrie.
Marie Mindras qui publie « La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin ». Marie Mindras, vous dites que c'est la 5e guerre de Poutine. Vous venez d'en énoncer quelques-unes. Pourquoi cette stratégie du conflit ? Pourquoi avec des alliés comme la Syrie, puisque vous avez cité la Syrie comme exemple pour ne prendre qu'un seul de ces conflits ?
La Syrie n'est pas un allié de Poutine dans la guerre d'Ukraine. Ce sont l'Iran et la Corée du Nord, essentiellement les deux alliés militaires.
Je cite la Syrie parce que vous dites qu'il y a un basculement à ce moment-là ou que c'est un chapitre important de l'évolution du régime.
C'est-à-dire que Bachar a fait de Poutine son allié et son soutien dans la guerre. Et Poutine a décidé à ce moment-là d'intervenir, donc c'était en septembre 2015, d'intervenir directement, c'est-à-dire d'envoyer des militaires russes, des avions russes, des bombardiers russes, et à chaque fois, en prétendant lutter contre le terrorisme à l'est de la Syrie, en réalité, c'était des généraux russes qui détruisaient la ville d'Alep et qui menaient la guerre, non pas contre des organisations terroristes, mais en réalité contre la population de Syrie qui, en grande majorité, s'était soulevée contre le dictateur alaouite en 2011, au moment du printemps arabe.
Marie Madra, j'ai cité la Syrie parce que vous expliquez dans ce chapitre qu'à ce moment-là, il y a probablement une perte de lucidité de la part de Poutine dans la façon dont il pèse le pour et le contre de ses engagements militaires en dehors de la Russie.
En fait, là où il est devenu clair pour moi que l'homme était dans une émotion de revanche, de haine et de destruction, ça a été plutôt en 2013-2014, quand il n'a pas supporté la seconde révolution de couleur en Ukraine, donc Euromaïdan à l'hiver 2013-2014, qu'il a essayé de pousser le président dictateur ukrainien de l'époque, Yanukovych, à utiliser la violence armée contre des manifestants pacifiques sur Maïdan, à Kiev. Et c'est lui, donc, qui a lancé une confrontation et ensuite a pu bâtir un récit totalement faux qui était qu'en réalité, les États-Unis étaient derrière et ils essayaient de mettre à feu et à sang l'Ukraine. Donc, à partir de ce moment-là, on voit déjà que l'homme est pris dans ses passions, qu'il lance une occupation de l'est de l'Ukraine, le Donbass, en mars, avril, mai 2014, sans avoir jamais vraiment étudié le terrain, la situation, l'état d'esprit des populations et surtout la capacité de résistance des Ukrainiens. Et vous vous souvenez probablement qu'en 2014, les autorités russes disaient qu'ils n'étaient pas du tout là, que c'était des petits hommes verts. Donc on envoyait des militaires qui n'avaient pas d'insigne et on prétendait que ce n'était pas la Russie. Là où nous avons été très nombreux, et les Ukrainiens eux-mêmes très surpris en février 2022, c'est pourquoi Poutine imposait à ses commandants militaires, à son conseil de sécurité, une agression que personne ne souhaitait. Et là, on s'est dit...
Pas même son état-major. Hein,
non, donc le dictateur était complètement hors sol. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai quand même bâti une analyse sur une forme d'irrationalité de cette décision et l'incapacité de l'entourage de le freiner, car c'était déjà un petit peu tard. Et l'irrationalité venait aussi du fait que Vladimir Poutine, étonnamment, en dépit de toutes ces guerres, toutes ces violences, de la subversion contre nos pays, des 11 000 morts dans le Donbass les années précédentes, avait réussi à maintenir une position de puissance assez confortable en Europe. Pourquoi est-ce qu'il a cassé tout ça ? Finalement, on avait beaucoup de sanctions contre la Russie, mais on avait plus ou moins entériné l'annexion de la Crimée. On soutenait les Ukrainiens, évidemment, dans le Donbass, mais on ne les a pas vraiment armés de manière à ce qu'ils puissent repousser l'agresseur en 2014. Donc, tout était plutôt tranquille pour Vladimir Poutine.
Vous dites clairement qu'il n'avait rien à gagner à pousser son avantage, qui est devenu un désavantage. C'est la thèse de votre livre. La thèse aussi la plus intéressante, enfin celle qui m'a frappé et l'argument qui m'a emporté, c'est quand vous dites quelqu'un qui désinforme ses ennemis, quelqu'un qui utilise la désinformation à ce point contre ses ennemis extérieurs, mais aussi contre ses ennemis intérieurs, ne peut que se désinformer, que s'illusionner. C'est-à-dire que Poutine...
C'est une évidence.
Vous m'avez dit au téléphone hier, je suis mieux informé sur l'état de la Russie que Poutine lui-même. Je me suis dit, mais elle est culottée celle-ci. Et en fait, il y a une grande logique à expliquer que dictatures qui pratiquent la désinformation, eh bien, en retour, ont la désinformation et la perte de lucidité.
Oui, c'est aussi une incapacité d'écoute. C'est-à-dire qu'un homme qui est au pouvoir depuis 25 ans, qui est un guébiste, hein, il était chef du FSB en 1998-99, qui a été placé à la tête de la Russie parce qu'il a accepté d'offrir à l'armée une revanche sur les Tchétchènes qui avaient gagné la première guerre d'agression en 96. Si vous voulez, cette personne qui petit à petit bâtit un pouvoir sans limite, même ses proches conseillers, même ses ministres, même le chef du FSB et du renseignement militaire actuel, n'arrive pas le convaincre de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. On voit déjà dans nos démocraties que nos dirigeants peuvent, au fil des années, ne plus vraiment prendre le temps d'écouter. Et il faut du courage quand on est au pouvoir pour lire des textes critiques et pour douter. Parce qu'on est tellement pris dans l'action. Donc déjà, chez nous, on voit très très bien comment la prise de décision peut à un moment écarter tout ce qui va un petit peu dans un autre sens. Bon, donc imaginez dans une dictature où même Alexei Navalny, que j'ai bien connu, qui avait été empoisonné en 2020, qui était depuis 3 ans dans un camp dans le Grand Nord, tenu dans un cachot, dans des conditions abominables. Pourquoi il a fallu que le 16 février dernier, ils mettent fin à sa vie parce qu'il respirait encore. C'est-à-dire que le dictateur ne supportait pas que le grand résistant respire encore. Donc je crois que nous sommes face à ce phénomène et c'est un phénomène qui est dangereux et très difficile à gérer pour nous parce que comment gérer un régime où notre seul interlocuteur possible, qui est de l'autorité, est Poutine. Mais Poutine est incapable d'entendre et de discuter et de négocier. C'est pour ça que quand on me parle de négociation, je dis oui, mais pour négocier, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui ait soit l'obligation, soit l'envie de négocier. Et pour ça, ben, il faut un but de paix et il ne l'a pas. Il est en survie.
Marie Mindras, est-ce que cette guerre de Poutine est la dernière?
Bien sûr.
Vous en êtes certaine?
Bien sûr. Parce que il a dépassé toutes les limites. Il a terrorisé son camp. Nous n'informons pas assez ici. Mais c'est l'objet de mon prochain ouvrage.
Vous trouvez le camp occidental un peu défaitiste? Il se laisse trop impressionner? Il ne prend pas assez en compte justement des ouvrages comme le vôtre ou certains autres?
Il n'y a pas de camp occidental. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont une responsabilité et qui gèrent la politique européenne, la politique des pays occidentaux. Mais je pense que pour mieux défendre l'Ukraine, il faut bien comprendre à quel point la situation est mauvaise en Russie. Mauvaise au sein des élites dirigeantes et également à l'intérieur du pays. On ne cesse de dire la Russie gagne parce qu'elle avance d'un kilomètre et on ne donne pas toute la vérité sur d'autres avancées militaires ukrainiennes comme par exemple les bombardements sur la marine russe dans la mer Noire. Il y a beaucoup d'autres éléments qui vont plutôt dans le sens de l'Ukraine. Et enfin, maintenant que l'aide américaine arrive, nous pouvons être beaucoup plus positifs sur les mois qui viennent.
Marie Mindras, La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, ça vient de paraître chez Kalman Levy.
Est-ce que vous me permettez
passionnant.
De dire
je vous permets ce chose. Que vous voulez en 30 secondes.
Oui, parce que je suis chercheur au CNRS et à Sciences Po, professeur à Sciences Po, et je voulais simplement dire que ce qui se passe à Sciences Po et à la Sorbonne est différent de ce qui vient d'être présenté avant notre entretien.
Ça, c'est un autre sujet.
Oui, mais comme je suis invitée ici comme universitaire de Sciences Po, je tenais à le dire. C'est important pour moi. Je ne peux pas être sur cette antenne et donner l'impression que je suis d'accord avec cette lecture, qu'il y ait une instrumentalisation par des personnalités politiques françaises de mouvements étudiants, c'est tout à fait possible. Mais de dire que ces étudiants qui sont dans un combat sincère sont manipulés, ça je ne peux pas le laisser dire.
Marie Madras, il y aura une revue de presse dans quelques minutes qui fera le point global sur la situation à Sciences Po et à la Sorbonne, avec notamment une interview de Jean Bassère, le patron par intérim de Sciences Po. Je vous remercie, je rappelle le titre de votre livre, La guerre permanente, c'est paru chez Calmann-Lévy. À bientôt Marie Madras, à suivre le rappel des titres à la revue de presse.
Merci. De nos esprits.